J'achète responsable, je me déplace écolo, j'épargne solidaire, je consomme bio, nous mutualisons nos talents, je travaille autrement, nous agissons ensemble. Ces mots doivent devenir des actes. Agissez dans votre région durant le mois de l'économie sociale et solidaire. À tous les acteurs de changement, rendez-vous près de chez vous en novembre. Faites votre programme sur le www.le-moi-ess.org.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce moment de radio dédié à l'économie sociale et solidaire. Alors, une émission réalisée avec les moyens et l'appui technique de RCF Reims et de RJR Radio Jeune Reims. Et je salue aux manettes de cette émission Stéphane Lepin de RJR. Une émission réalisée dans le très beau cadre de la mairie de Reims, en Champagne, Ardennes, et rediffusée un petit peu partout en France. Alors bonjour aux radios qui rediffusent ou diffusent ce moment de radio. Alors deux prétextes au moins pour la tenue de cette émission. Le premier, la tenue du congrès du SNRL, Syndicat National des Radios Libres, principale organisation professionnelle représentative des radios associatives en France. Elles sont 600 sur un nombre total de radios de 900. Les radios en France, on n'oublie pas non plus les radios d'outre-mer. Un congrès du SNRL qui s'est tenu jusqu'au 27 octobre et qui avait commencé le 25 ici à Reims et à Châlons en Champagne. Et l'autre prétexte, c'est le lancement du mois de l'économie sociale et solidaire partout sur le territoire national, à l'initiative notamment de la CRES. Un mois pour faire découvrir au plus grand nombre cette autre façon de concevoir l'économie. C'est donc de cette autre économie dont nous allons parler pendant 60 minutes, un peu moins maintenant, avec des acteurs qui œuvrent au jour le jour pour promouvoir une économie qui a du sens. Et l'ESS en France, c'est au moins 10% de l'économie, 2,3 millions de salariés et 440 000 emplois créés en 10 ans. On va parler de l'ESS avec ses acteurs. Alors j'ai le plaisir de saluer ici Monsieur Jean-Louis Cabrespine. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des CRES. Deux mots sur ce Conseil national des CRES.
Oui, c'est très simple. Il existe dans chacune des régions une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui regroupe les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc les mutuelles, les coopératives, les fondations, les associations, et maintenant de plus en plus les entreprises sociales. Et l'ensemble de ces 26 chambres régionales, puisqu'il y en a 22 en métropole et 4 dans les DOM, l'ensemble de ces chambres sont réunies au sein d'un conseil national et où nous nous concertons, où nous travaillons ensemble. Voilà.
Merci pour cet éclairage. Michel Sévère, vous connaissez bien le Conseil national des CRES. Bien et pour sûr. Cause, vous êtes présidente de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Champagne-Ardennes. Et l'économie, vous connaissez également, vous la pratiquez dans votre travail?
Oui, parce que je suis universitaire et enseignante en économie à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes.
Très bien, merci d'être là. Puis vous nous présenterez aussi les porteurs de projets. Ça n'aurait pas eu de sens de faire une émission sur l'économie sociale et solidaire sans avoir des porteurs de projets. Ils sont deux. Alors, j'aurais préféré un homme et une femme, mais c'était un peu compliqué. En tout cas, je suis ravi que Jérémy Dravigny et Pierre Clouet soient là. Jérémy Dravigny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'œuvre pour l'organisation d'un festival de la poule aux champs.
La poule des champs.
Des champs. C'est en milieu rural, donc.
Voilà, c'est un festival musical qui existe depuis 7 ans dans un petit village qui s'appelle Aubéry, donc à 30 km de Reims, qui fait 240 habitants. Et la dernière édition, en septembre dernier, a réuni 3500 spectateurs et 120 bénévoles.
Portée par une association. Qui s'appelle ?
L'Albariva.
Très bien. Pierre Clouet, autre porteur de projet, vous êtes président d'un groupement d'employeurs pour le développement de l'associatif, du mouvement associatif, en deux mots.
Alors le groupement d'employeurs, en deux mots, il est un peu à l'articulation entre les mouvements de l'économie sociale et l'économie sociale organisée à travers les syndicats, le syndicalisme employeur, dont on vous parlera après. Mmh. En ce sens que nous avons comme ambition, au sens noble du terme, de proposer aux associations membres de mutualiser des emplois, à la fois pour dynamiser ces associations, pour conserver les compétences et pérenniser les emplois.
La mutualisation est au cœur de l'action des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Groupement d'employeurs, vous en parliez à l'instant, Pierre Clouet, Hugues Vidor est avec nous. Bonjour, merci également à vous d'être ici. Vous êtes vice-président de l'USGRES, alors un acronyme qu'on va expliciter une fois dans cette émission au moins, Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs de l'économie sociale. Avec vos mots à vous, c'est quoi?
avec mes mots et avec le mot le plus simple on peut, pour synthétiser les choses. On connaît bien dans le paysage français le MEDEF, l'UPA, la CGPME, hein, donc les organismes patronaux institués. On connaît moins l'UGRS. Pourtant, l'UGRS, c'est un organisme patronal, mais spécifiquement sur le champ de l'économie sociale. Qui rassemble 60 000 entreprises, qui regroupe 800 000 salariés, 25 syndicats d'employeurs, 13 branches. Donc c'est une composition avec différentes familles. On a parlé de l'animation, on a parlé des coopératives, de l'aide à domicile et de la mutualité, et avec une finalité qui est d'œuvrer autour de valeurs communes pour faire que les employeurs de l'économie sociale soient reconnus à part entière, parce que nous représentons tout de même 2 millions de salariés. Et il n'est pas juste que sur ces questions-là, il n'y ait pas de concertation, de consultation des employeurs de l'économie sociale qui sont au cœur des politiques d'emploi et de formation.
On parlera de cette reconnaissance désirée par les uns et par les autres de cette économie sociale qui représente au moins 10% d'économie. Et je terminerai le tour de table en remerciant également la présence de Frédéric Toussaint. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur au niveau national, directeur de la communication du Crédit Coopératif. Moi, je dirais, c'est la banque des associations, c'est comme ça qu'elle est connue, mais c'est réducteur que de dire
cela. La banque de l'économie sociale, hein, donc des associations, des mutuelles, des coopératives, de tous les acteurs engagés de l'économie sociale et qui font vivre le pays, les territoires, avec ses valeurs différentes, hein, qui regroupent toute cette économie de personnes plutôt que cette économie de capitaux.
Alors, dans économie sociale et solidaire, il y a économie d'abord, et c'est vrai que le secteur bancaire coopératif, évidemment, a un rôle déterminant à jouer pour que les projets, finalement, voient le jour et soient pérennisés. Jean-Louis Cabrespine, je rappelle, vous êtes donc le président du Conseil national des CRES. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille affaire, on ne va pas refaire l'histoire, mais peut-être pointer que déjà au 19e siècle, peut-être au 18e siècle, mais disons, quand la société industrielle s'est développée, s'est installée, l'économie sociale est apparue, malgré son histoire, malgré ses réalisations, malgré son poids dans l'économie, malgré ses plus de 2 millions d'emplois, on a l'impression qu'elle est mal connue du grand public et qu'il faille pour ceci organiser et proposer ce mois de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que finalement, dans l'ADN de ce mois de l'économie sociale et solidaire, qui est né en 2003 en région PACA et qui a été à une échelle nationale à partir de 2008, est-ce qu'il y a finalement cette intention première, impérieuse, de parler de cette économie, de la faire comprendre ?
Oui, alors vous, c'est vrai que c'est intéressant de raconter l'histoire de l'économie sociale et solidaire parce que 19e siècle, le lancement, enfin tout ce qui s'est passé autour du secteur associatif avec la loi 1901, tout ce que la loi Le Chapelier aussi avait remis en cause. Sur les corporations, les coopératives, enfin, je vais pas revenir sur tout, ou les premières mutuelles. Donc tout ça.
Le familistère de Gaudin.
Familistère, voilà. Oui, en plus, oui, c'est ça. On n'est pas loin de la Franche-Comté. C'est vrai que c'est un peu le berceau des coopératives. Hein, c'est vrai que c'est intéressant de regarder ça parce que ça a correspondu à une réponse apportée par les citoyens à un système économique qui ne leur convenait pas, en quelque sorte. Bon. Et donc, l'économie sociale et solidaire s'est développée au fil du temps, au cours du XXe siècle. Elle s'est organisée parce que on parle aujourd'hui d'un certain nombre d'organisations. On parlait du CNCRES, on pourrait parler du CGES, qui est une autre organisation, ou d'autres organisations comme ça. Toutes ces organisations, en fait, existaient déjà. Il y avait ce qu'on appelait le CLAMCA. Alors, le CLAMCA, c'est notre ancêtre à tous. Et il y avait dans les régions ce qu'on appelait les GRCMA, groupements régionaux des coopératives mutuelles et associations. Mais tout ça faisait que les acteurs se retrouvaient entre eux, discutaient entre eux, mais ne valorisaient pas l'action qui était la leur. Et que les valeurs qui sont portées, les principes qui étaient portés par, enfin, qui sont toujours portés par l'économie sociale et solidaire, n'étaient pas suffisamment connus. Donc quand Rocard a lancé, parce qu'il faut aussi
remonter... Michel.
Voilà, Michel Rocard, voilà. Quand Michel Rocard a décidé de dire il faut qu'on arrive à faire connaître le concept d'économie, ce concept d'économie, qu'avec, je crois que c'est avec François Soulages qu'ils ont lancé le concept d'économie sociale, à ce moment-là, on a commencé à se dire, bah oui, c'est vrai, finalement, on vit, mais on n'est pas connu. Et puis, on est des vrais acteurs économiques et on ne le fait pas savoir. Donc, du coup, petit à petit, alors je ne vais pas rentrer dans toute la suite de l'histoire, il y a eu la délégation interministérielle, etc. Il y a eu une véritable, du côté de l'État, comme du côté des acteurs, il y a eu la volonté de pouvoir s'organiser, de pouvoir être reconnu. C'est à ce moment-là que sont nées les chambres régionales, qui étaient en fait le prolongement des GRCMA, mais qui ont eu une autre vocation que les GRCMA. Les GRCMA, moi j'y participais dans ma région à l'époque, hein, on se retrouvait une fois tous les deux mois, on se faisait une bonne bouffe. On discutait entre nous.
C'est important la convivialité.
Oui, non, mais d'accord. Mais c'était pas forcément. Bon, c'était intéressant. Très honnêtement, c'était intéressant. Mais on n'était qu'entre nous. Et du coup, on s'est dit, mais oui, mais les entreprises entre elles, elles sont sectorisées. C'est-à-dire, on avait d'un côté les associations qui essayaient de vivre parce qu'elles n'étaient encore pas suffisamment organisées. Il n'y avait pas la conférence permanente des coordinations associatives qui existait. Parce qu'elle est née, elle est très tardivement, la cette CPCA, comme on dit. Hein, voilà. Il y avait d'un côté les coopératives. Les coopératives, elles s'étaient organisées en grande famille. Il y avait coopératives bancaires, il y avait les coopératives agricoles, les coopératives de consommateurs, enfin, tous les types de coopératives. Mais il n'y avait pas vraiment, dans les régions, d'organisations qui permettent de regrouper tout ça. Et donc, c'est comme ça que sont nées les CRES, à la fois pour répondre aux besoins de regroupement des acteurs, mais également pour pouvoir promouvoir, faire connaître, faire reconnaître l'économie sociale et solidaire auprès des autres acteurs. Et en particulier parce qu'on voyait bien que dans certaines activités, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des accompagnateurs des politiques publiques, voire même des initiateurs des politiques publiques, parce que beaucoup d'innovations existent parce que l'économie sociale et solidaire s'est penchée dessus.
Dans le recyclage, par exemple, hein, rattrapé par l'économie marchande.
Mais même regardez, dans le sanitaire social médico-social, s'il n'y avait pas eu des associations qui s'étaient bagarrées sur la question de la lutte contre le sida, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé à ce sur quoi on est arrivé. S'il n'y avait pas eu dans les territoires des mutuelles ou des associations qui se battaient pour faire du service à la personne, pour pouvoir rendre, pour aller à domicile, pour aider les personnes, on n'aurait probablement pas eu le développement qu'il y a eu. Donc on voit bien que ce secteur-là était un secteur, et est toujours un secteur dynamique, mais qu'il fallait pouvoir le regrouper. Donc ça, c'est en gros pour vous dire que l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille histoire, mais c'est une histoire qui a évolué au fil du temps. Et puis, on s'est rendu compte, les CRES ont commencé, les premières CRES ont aujourd'hui 10, 12 ans, 15 ans pour la toute première, mais qui n'avait pas encore la notion de CRES telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais en gros, 10 ans. Et puis on s'est dit petit à petit, bah oui, c'est bien de pouvoir regrouper les acteurs sur les territoires, c'est bien de pouvoir promouvoir dans les territoires, mais il faut aussi que le grand public sache que ça existe. Il faut que le grand public sache que quand il emmène son gosse à la crèche le matin, c'est peut-être une crèche associative et qui est de l'économie sociale. Il faut qu'il sache que quand il achète du café équitable, c'est du café de l'économie sociale. Il faut qu'il sache que quand il va à la clinique mutualiste, c'est une clinique de... Et pareil pour... Enfin, on pourrait citer plein...
Et quand il fait son chèque à la banque, au crédit coopératif, voilà, c'est une banque qui a
exactement
des valeurs.
Donc, il faut que le grand public ait conscience que ça existe et que c'est pas seulement des entreprises qui produisent de l'économie, mais c'est aussi des entreprises qui ont des valeurs et qui produisent des valeurs même. Et donc, du coup, on s'est dit... sur l'initiative de la région PACA, lançons le mois dans toutes les régions. Et depuis donc 2008, nous avons décidé de lancer dans chacune des régions le mois de l'économie sociale. Donc le mois de novembre est consacré à ça. Donc il y a une grande manifestation nationale qui lance le mois. Et ensuite, dans chacune des régions, bien, on essaye de demander à chacune des CRES de monter les opérations. Nous avons... Cette année, nous avons 1700 manifestations qui vont se dérouler dans l'ensemble des régions. Donc, c'est vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez important.
C'est un top départ synchronisé ou chacun...
Alors, cette année, oui. Cette année, ce qu'on a essayé de faire...
Le 25 octobre,
c'est ça. On a organisé une soirée au réservoir à Paris, à laquelle a participé Benoît Hamon.
Donc, le ministre... On parlera de ce ministère.
Ah oui, parce que c'est vrai que on est dans une... Enfin, excusez-moi, j'en parle tout de suite parce que c'est vraiment une période importante pour nous, puisque auparavant, on avait l'économie sociale et solidaire a quand même été prise en compte, puisqu'il y avait une délégation interministérielle, mais qui, au fil du temps, s'est délitée, puisque ça a fini en mission interministérielle à l'économie sociale et solidaire, rattaché à la direction générale de la cohésion sociale.
Donc on est dans les interstices, là.
Donc on est dans les, vraiment dans, oui, enfin dans oui, bon, avec des budgets qui baissaient année après année, puisque l'année dernière encore, ils nous ont mangé 50% du budget, enfin l'année dernière, l'ancienne mandature, et que du coup, on voyait bien qu'il y avait une perte d'identité. Et quand il y a eu les élections, la demande que nous avons émise auprès de tous les candidats, ça a été d'avoir un secrétariat d'État à l'économie sociale.
Comme celui de Guy Asquette, sous Jospin.
Voilà. Et puis, on a eu le grand bonheur de découvrir que le gouvernement actuel nous a nommé un ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Et donc là, pour le coup, ça nous donne une dimension supplémentaire. Donc je reviens sur ma manifestation. Le 25, Benoît Hamon est venu et on a lancé le mois à Paris. Mais dans 12 régions, en même temps, nous avions la manifestation qui se déroulait et nous avons pu correspondre avec ces régions sur... Et l'année prochaine, ce que nous envisageons, c'est que ce soit les 26 régions, qu'on fasse des duplex avec les 26 régions et à l'international. Alors cette année, on a eu que le Maroc qui a été en contact avec nous. Mais à partir de l'année prochaine, on veut faire des manifestations du mois international de l'économie sociale dans plein de pays.
France métropolitaine, département et territoire d'outre-mer compris, bien sûr, oui. Territoire national, plus évidemment cette dimension internationale que vous soulignez. Merci d'avoir introduit et puis d'avoir tracé cette perspective historique. Il était tout à fait intéressant de redire certaines choses, d'où vient, comment est née cette économie sociale, l'économie sociale et solidaire. Vous avez d'ailleurs rajouté un S à Cresse il n'y a pas si longtemps pour être à l'unisson, hein, disons. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui se passe en région. Là, on est dans cette très belle région Champagne-Ardennes. Madame Michèle Severs, vous êtes donc la présidente de la Cresse Champagne-Ardennes. Évidemment, vous participez à ce mois de l'économie sociale et solidaire. J'ai vu des éléments de communication, j'ai vu que la culture était tout à fait au rendez-vous. Ça, évidemment, par la culture, on peut dire beaucoup de choses. Il y a un mois du cinéma social et solidaire à Reims, avec des projections des films connus, plus ou moins d'ailleurs, hein, les films de Christian Rouault et d'autres un petit peu moins connus. Évidemment, il est important que chaque région prenne à bras le corps, via les CRES, cet événement, cette opportunité de focaliser, de mettre en lumière cette activité, ces acteurs.
Eh bien oui, quatrième version du mois de l'économie sociale en Champagne-Ardennes. On a démarré un petit peu en retard, mais on s'est rattrapé vite. Hein. Un an de retard, c'est pas grave.
À l'échelle du temps.
Tout à fait. Et c'est cette année 70 événements. Et ce qu'il faut souligner, c'est 70 événements répartis dans nos 4 départements. Et nous avons une région très, très étendue, et aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Peut-être rappeler que le mois de l'économie sociale, c'est pas le mois des CRES, c'est pas le mois du CNCRES, c'est le mois des acteurs. Hein. Et si nous réussissons ce coup de force, parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un coup de force médiatique, c'est parce que sur les territoires se sont mobilisés l'ensemble des acteurs de l'économie sociale, qu'ils soient associatifs, coopératifs, mutualistes, et sans oublier bien sûr l'insertion par l'activité économique qui se mobilise aussi. Donc c'est un grand moment, mais c'est un grand moment qui doit marquer et qui a pour objectif de marquer les esprits. Marquer les esprits, ça veut dire, Jean-Louis Cabrespin l'a bien dit, hein, notre gros problème, notre gros souci, c'est de se faire connaître et reconnaître. Il faut y mettre le paquet et ce mois de l'économie sociale permet de s'adresser au grand public. Alors dans grand public, on ne met pas seulement la femme et l'homme lambda, l'homme de la rue, la femme lambda de la rue, on met aussi nos élus politiques qui, il faut bien le reconnaître, ne sont pas du tout conscients que cette économie existe.
De plus en plus.
De plus en plus, ça progresse, je suis d'accord, mais il y a encore beaucoup à faire. Hein. Peut-être que nos élus régionaux sont plus au fait des choses que nos élus des conseils généraux. Et puis, dans les villes, eh bien, il faut bien reconnaître que l'économie sociale, on n'a pas forcément un interlocuteur politique. Et souvent, c'est dilué dans... Eh bien, on retrouve les activités. Et que là, ça nous pose problème, puisque nous, notre souci, c'est de fédérer, c'est de rassembler, c'est de montrer que c'est un secteur économique à côté des deux autres, que je n'oublie pas, le secteur public et le secteur privé à but lucratif. Et c'est bien ça qui est important de mettre en avant pendant ce mois. Et ce mois, ce n'est pas non plus, comme l'a dit Jean-Louis Cabrespine, un mois de l'entre-soi où entre acteurs de l'économie sociale, on va se rencontrer, bien sûr, et on en a besoin parce que tous les acteurs ne se reconnaissent pas dans cette entité-là. Donc, au sein de notre grande famille, il faut travailler. Mais c'est aussi rencontrer les autres acteurs économiques sur les territoires. Hein. Et rencontrer les autres acteurs économiques, c'est les autres formes d'entreprise, les autres modèles économiques.
Il faut dialoguer.
Il faut montrer qu'on existe avec, comme de véritables entreprises, de plein droit. C'est pas parce qu'on est subventionné qu'on n'est pas une entreprise. L'Europe l'a rappelé. Une entreprise ne se définit pas par son statut ni par son mode de financement, mais par la production de biens et de services. Et de ce point de vue-là, écoutez, associations sont bien des entreprises. Donc c'est ça que nous voulons faire dans le cadre de ce mois de l'économie sociale, c'est aussi dialoguer avec les autres acteurs économiques et les politiques. Et surtout, aller en direction des jeunes, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'économie sociale n'est pas enseignée et elle ne fait pas partie de la culture de base des citoyens et des citoyens.
Ça va peut-être changer avec la loi d'orientation qui va arrivé là au mois d'avril et porté par le ministre de l'économie sociale.
Tout à fait, on a plein d'espoir.
Tout à fait. J'allais vous poser une question. L'économie sociale et solidaire en Champagne-Ardenne, combien de divisions ? Combien d'emplois ? Combien d'entreprises ?
Les chiffres, alors ça c'est un grand moment. Depuis 2008, nous avons des statistiques qui sont produites par l'INSEE, c'est quand même une sacrée légitimité, et puis qui sont réactualisées. C'est près de 11% des salariés en Champagne-Ardenne, et c'est 9% des établissements employeurs. Donc c'est pas rien, et ces chiffres-là ont quand même alerté nos politiques qui se sont dit que ça n'est pas une économie marginale, c'est bien une économie qui fait partie de l'économie champardonnaise, encore une fois, de plein droit.
Alors, avec le micro, si on intervient, oui. S'il vous plaît. Avec un conseil régional favorable.
Avec un conseil régional qui, depuis 8 ans, a développé une politique de soutien offensive, véritablement, on peut le dire, à l'économie sociale, d'une façon générale.
On est toujours à la mairie de Reims, dans ce beau cadre patrimonial, où l'on parle, évidemment, de l'ESS, à l'occasion de la fin du congrès du SNRL et puis à l'ouverture, la dernière du mois de l'ESS avec Jean-Louis Cabespine, avec Michel Severs qui venait de prendre la parole. On conversera tout à l'heure avec Frédéric Toussaint en charge de la communication au plan national pour le crédit coopératif. On s'adressera également à Yves Vidor, vice-président de l'UGERES, en charge du développement social et de la négociation collective. Je disais en introduction, ça n'a pas eu de sens de faire une émission, on parle de SS, sans avoir des porteurs de projets ici. Madame Severs, il y en a deux, vous les connaissez, ces porteurs de projets. On va leur donner la parole, bien entendu, mais je voudrais de quelques mots, vous puissiez introduire finalement leurs propos.
Alors, ce qui est c'est vrai qu'on aurait voulu la mixité, mais ça n'a pas été possible en tout état de cause. Dans l'économie sociale, c'est pareil qu'ailleurs, hein, elle fait partie de l'économie. Et la question de la participation des femmes se pose comme dans les deux autres secteurs. Et il y a beaucoup à faire, même si a priori on aurait pu penser que c'était mieux qu'ailleurs. Force est de constater que ça ne l'est pas, mais les choses vont là aussi évoluer. Mais on a deux porteurs de projets, un tout jeune porteur de projet, c'est quand même ça l'avenir de l'économie sociale, un moins jeune, excuse-moi Pierre, mais quelqu'un qui est véritablement quelqu'un qui dans le territoire champardonnais a beaucoup compté par ses multiples fonctions, à la fois professionnelles et son engagement bénévole. Donc, d'un côté, on va avoir une association dans le domaine culturel, en milieu rural, et on va avoir un groupement d'employeurs pour le développement associatif dans la Marne, et qui, là encore, on a une exemplarité en Champagne-Ardenne, puisqu'après avoir fait un constat au Conseil économique et social que nous avions deux groupements d'employeurs pour le développement associatif dans deux départements, il fallait à tout prix qu'on maille le territoire et qu'on ait 4 groupements d'employeurs dans les 4 départements qui composent notre région. Et bien sûr, mettre en réseau ces groupements d'employeurs associatifs. Et dans le même temps, on crée un réseau de tous les groupements d'employeurs qui sont tous associatifs, mais certains ne sont pas dédiés à l'économie sociale. Mais on va réussir ce tour de force en Champagne-Ardenne.
Jérémy Dravigny et Pierre Clouet, vous êtes ces deux porteurs de projet. Je vais passer la parole à Jérémy Dravigny, jeune porteur de projet. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune, très concrètement?
Moins de 30 ans? Bonne question, oui, voilà, moins de 30 ans.
Moins de 30 ans. Voilà. Alors, vous êtes à l'œuvre, évidemment, pour ce festival de la Poule des Champs, du côté d'Aubéry, à 30, 40 km de Reims, c'est ça?
C'est ça.
Et moi, j'avais une question d'abord. Vous avez conscience de faire partie du champ de l'économie sociale et solidaire ou vous êtes un monsieur Jourdain de l'économie sociale et solidaire?
Ah, c'est une bonne question. Non, justement, on en parlait avec Madame Severs à l'instant. On a conscience quand même, effectivement, de ce que l'événement peut porter comme valeur.
Vous parlez du mois de l'ESS, là?
Comment? De l'événement que nous, on organise, le festival.
Ah oui, l'événement, le festival.
Et ce qu'il représente, les valeurs qu'il porte. Mais c'est vrai que le terme d'économie sociale et solidaire commence seulement à avoir du sens pour nous et on commence vraiment à prendre conscience qu'on est à notre modeste échelle l'un des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Ça fait que finalement, par imprégnation successive, vous vous intéressez de plus en plus aux thématiques de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qui vous rend plus curieux de ce qu'on appelle cette autre économie?
Bah oui, tout à fait. De toute façon, quand on a créé cet événement, voilà, quand on essaie de créer un événement en portant avec certaines valeurs en milieu rural, effectivement, à un moment donné, quand on parle des valeurs de l'économie sociale et solidaire, bon, on ne peut qu'être curieux d'en savoir plus et essayer de voir aussi, nous, comment, à notre manière, on peut peut-être aussi apporter notre pierre à l'édifice et essayer de faire mieux encore dans ce champ-là.
Parler de valeurs, ce sont lesquelles vous aimez pratiquer?
Nous, sur le festival, quand on a créé le festival, c'était vraiment l'idée, c'était déjà de dynamiser un territoire qui était trop souvent oublié, de créer du lien social entre les gens, parce que même si on est un petit village et qu'on vit toujours à la campagne, tout le monde se connaît, ces 20 dernières années, le paysage, la population de villages qui sont pas si éloignés que ça de grandes villes comme Reims ou Châlons-Champagne ont extrêmement changé, et on est passé vraiment d'un village où tout le monde se connaissait à un village où la notion d'intégration pouvait prendre son sens, à sa modeste échelle, mais quand même. Donc c'était l'idée, c'était de créer un événement où chacun pourra se rencontrer, partager un moment, et pas seulement se croiser à la boîte aux lettres ou à l'arrêt de bus pour l'arrêt de bus scolaire, mais voilà, partager des moments ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le festival, c'est 120 bénévoles, c'est 90% originaires du village, 3 générations. Et voilà, tous ces gens ne faisaient que se croiser avant, et maintenant partagent vraiment des moments ensemble, dans le montage de l'événement, mais aussi, vu que les repas sont pris en commun, donc voilà, c'est de la convivialité, c'est aussi de la sensibilisation avec des rencontres avec des scolaires, c'est une volonté aussi de proximité, et puis voilà, ce que l'événement est d'accessibilité, puisque à la fois par rapport à la politique tarifaire, mais à la situation géographique de l'événement, et de convivialité, c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. On veut vraiment que les artistes, que les techniciens, que les spectateurs, que les bénévoles passent tous un bon moment, puissent tous échanger ensemble, et pas seulement le spectateur qui a payé ou l'artiste qui a pris son cachet pour venir.
Vous décloisonnez en quelque sorte. Et j'ai bien compris que ce n'était pas un événement plaqué, mais co-construit avec les personnes qui sont sur place, qui résident sur place, et que c'est aussi transgénérationnel.
C'est ça, en fait,
du vrai lien social, effectivement.
Au départ, c'était effectivement porté par l'association, qui est entre guillemets l'association des jeunes, voilà, donc des moins de 30 ans, mais qui s'est vue... on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, et effectivement, voilà, on veut décloisonner un peu et faire les choses de manière professionnelle, mais sans oublier les valeurs humaines, quoi.
Festival musical ?
Rock, chanson.
Quels artistes, hein, donnez-nous quelques repères.
On a pu avoir Bertignac, on a eu Zebda, Sins Emilia, Blancas, des terres d'artistes, Chaka Ponk, voilà, beaucoup d'artistes qui sont passés, ou même Barcelona, en Champardonnay, par exemple.
Quantième édition, là, en 2012, c'était la quantième ?
C'était la 7e édition, il y a un peu plus d'un mois.
Et donc, prochaine en 2013 ?
Prochaine en 2013, dans un contexte économique très compliqué, hein, parce qu'on est dans un tout petit village, dans une communauté de communes toute petite. On parlait tout à l'heure de la reconnaissance de ce qu'on fait. Je pense qu'aux yeux de certains élus de proximité, on est encore dans le registre de l'animation, et pas de la culture, ni même des valeurs sociales, et de la sensibilisation, et de tout ce qu'on peut faire. Pour eux, c'est bien, c'est une petite fête sympa dans le coin. Donc, il y a besoin qu'on leur rappelle, mais c'est très compliqué. Voilà, on ne parle pas toujours le même discours, même s'ils nous soutiennent, mais pas nécessairement pour les raisons qu'on voudrait, en tout cas. Donc, oui, contexte 2013 un peu compliqué, certaines subventions qui baissent, donc on ne baissera pas les bras, nous, en tout cas, mais le contexte va être compliqué.
C'est étonnant, d'ailleurs, cette considération des collectivités que vous mentionnez, puisque finalement, vous répondez à un besoin social ou sociétal de culture, qui est un élément quand même fondamental, qu'on associe souvent au développement durable, hein, à côté de l'économique, le social, l'environnemental, la culture, évidemment, peut-être la seule chose qui nous projette tous ensemble. Il n'y a pas pas cette conscience-là de que vous remplissez ce rôle social et sociétal.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas conscience. Ce serait quand même mentir dire qu'ils n'en ont pas conscience. Mais je pense qu'ils reconnaissent effectivement que c'est bien pour le territoire, mais ils ne prennent pas conscience vraiment de l'importance de soutenir ce genre de manifestation et de l'impact que pourra avoir l'arrêt d'un tel événement. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, effectivement, ils ont conscience qu'on peut avoir des difficultés, etc. Mais voilà.
Ils
donnent des sous, mais dans des villages qui font en moyenne 400 habitants, une communauté de communes qui fait 4000 habitants et qui n'a pas la compétence culturelle. Donc voilà, chacun fait des efforts à sa modeste échelle, mais ça reste plus du soutien de fond que de forme.
Il y a des liens, en revanche, avec la Crèce, par exemple, Champagne-Ardenne. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous parlez?
Ça va visiblement, devenir de plus en plus. Va devenir de plus en plus, puisque même avec le Conseil régional, on va, y a eu vraiment une prise aussi de conscience du Conseil régional, enfin, en tout cas, qui est venu jusqu'à nous, puisque là, on va être associé avec plusieurs autres festivals régionaux, justement sur l'économie sociale et solidaire que génèrent, que représentent ces festivals. Donc, on va avoir un groupe de travail très prochainement. Pour voir un peu tout ça. Donc, des liens, on en a très peu pour l'instant, mais aussi parce que nous, on ne prenait pas nécessairement conscience de ce qu'on pouvait représenter sur cette casquette-là.
Jérémy Dravigny, j'ai l'impression qu'il y a une synergie qui est en train de se mettre en place, en tout cas, elle est très désirée.
Nous, on fonctionne toujours comme ça, on essaie vraiment de. On fonctionne en synergie avec le collège pour la rencontre, avec le conseil général aussi pour cette rencontre, avec d'autres festivals pour mutualiser nos moyens matériels, puisqu'on cherche toujours à optimiser, on a toujours cette logique budgétaire. Voilà, donc oui, les synergies matérielles, mais aussi, intellectuelles, entre guillemets, et à partir du moment où on partage les mêmes envies, les mêmes valeurs, ça me semble naturel. Quoi.
Vous mutualisez les énergies.
Bah oui.
C'est tout à fait ça. Alors, Pierre Clouet, autre porteur de projet, la mutualisation, ça a un sens dans le fonctionnement, la construction de ce groupement d'employeurs pour le développement de l'associatif. Donnez-nous quelques points de repère justement de ce point de vue-là.
Je vais revenir, mais je peux pas résister à la tentation de commencer par une anecdote à propos de l'intervention de mon prédécesseur. Il y a à peu près 25 ans, j'étais président de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sedan et nous avions initié un festival de théâtre dont nous avions l'ambition de le porter dans les villages aux alentours. Et la chargée de mission théâtre de la DRAC à l'époque nous avait répondu, et ça nous a marqué, qu'elle ne finançait pas la culture pour les poules. C'était très exactement le terme qu'elle avait employé, donc c'est rigolo. Je dois dire que les choses ont évolué.
Le festival de la poule des champs maintenant.
Et que la DRAC maintenant, par exemple, participe par le biais de son ministère à une opération comme les Portes du Temps, dont on a fait le bilan hier. On n'est pas loin de la mutualisation à travers cette anecdote. L'économie sociale, c'est aussi une économie territorialisée et c'est une économie qui ne sectorialise pas. C'est-à-dire que la culture, pour nous, c'est aussi de l'économie et il peut y avoir de l'économie dans la culture, de la culture dans l'économie. Et le travail, c'est aussi son pendant, le loisir. Dans la prise en compte de l'être humain ou de la société, de l'économie sociale, il y a ce qu'on appelait à une époque, le mot était à la mode, c'était une vision holiste, c'était une vision totale, globale, dans laquelle on ne fractionne pas et on ne fractionne pas ni l'individu, ni les corps sociaux qui sont derrière. Ça, c'est la base de la mutualisation également. La mutualisation, c'est bien la prise en compte des énergies individuelles, qu'elles soient apportées par des êtres humains ou par des structures, dans une collectivité, avec un aller-retour permanent dans l'échange entre ce que le collectif apporte à l'individu et ce que l'individu apporte au collectif. Nous, au GEDA, on est un peu particulier.
Le GEDA, c'est le nom de la structure, c'est ça, hein.
Le GEDA, c'est le groupement d'employeurs pour le développement associatif. On est un peu à l'interface entre les mouvements et la fonction employeur, en ce sens qu'on essaye d'apporter et de transférer, de transposer cet esprit de l'économie sociale dans cette fonction employeur, ce qui, a priori, ne va pas de soi et qui est quand même un secteur du social dans l'économie, comme le dirait ma voisine, qui n'est pas forcément toujours perçu comme tel, y compris par ceux qui le pratiquent. On est dans un secteur, mais ça, Hugues Vidor y reviendra, puisque c'est sa partie, mieux que moi, où on n'a pas toujours conscience que la façon dont on pratique la relation à l'emploi dans toutes ses composantes, du recrutement à la mise en poste, de l'écriture du profil de poste à la gestion de tout ce qui tourne autour de ce poste, y compris dans des aspects triviaux comme le salaire, comme dans des aspects plus intéressants comme l'intégration dans l'entreprise. Tout ça, ça fait partie des valeurs qui sont portées par l'économie sociale. Nous, à notre modeste niveau, nous travaillons, alors en fait, nous avons comme possibilité d'accueillir comme membres des associations, mais également des collectivités territoriales et en particulier, des collectivités locales. Nous avons déjà 2 ou 3 mairies qui sont adhérentes, dont celle de Chalon qui va le faire et celle de Reims qui s'apprête à le faire. Donc je tenais à le noter au passage. Mais nous nous adressons essentiellement à des associations, tous champs confondus. Dire que des associations, elles peuvent être du secteur culturel, elles peuvent être du sanitaire et social, elles peuvent être de l'environnement. Et l'idée qui est derrière, c'est de se dire que un comptable, par exemple, pour lequel une association a un besoin de 4 ou 5 heures par semaine, ça peut arriver, il n'est pas condamné à être un comptable qui fait 4 ou 5 heures avec 15 employeurs différents, d'avoir 15 feuilles de paye à gérer, etc., etc., etc. Mais qu'on pourrait avoir l'intelligence de mettre autour de la table les porteurs d'emplois potentiels, de faire en sorte d'ailleurs, pourquoi pas, de redessiner le profil et les contenus de cet emploi et de faire en sorte que, par l'adhésion au GEDA, ce salarié ait un employeur unique qui est le GEDA. Alors ensuite, la façon dont l'emploi est pratiqué, dont l'emploi évolue, il est constamment discuté, débattu entre l'employeur, qui est le groupement d'employeurs, et l'usager, si j'ose dire, qui est l'association ou l'organisation dans laquelle cet emploi est vécu au jour le jour. Ça veut dire que, au-delà de cette action de mutualisation des emplois, le groupement d'employeurs se propose d'être aussi une structure et d'accompagnement du salarié et de l'employeur et de progrès de la relation sociale au sein des entreprises visées, voire au sein du collectif d'entreprises membres du groupement d'employeurs. Alors, ça paraît un peu prétentieux énoncé comme ça, mais en même temps, c'est bien pour ça que les GEDA sont des structures typiques, quelque part, elles aussi, même si on n'est pas directement dans de la production ou de l'organisation typique de l'économie sociale.
Qu'est-ce qu'il m'en coûte, moi, structure qui fait partie de ce groupement, accompagné par ce groupement? On est dans l'économie sociale et solidaire.
Absolument. Oui. Il n'est pas question que le GRETA perde des sous. Le GEDA, pardon.
Le GEDA,
l'APSUS. L'APSUS, c'est ouais. Ma vie professionnelle antérieure qui refait surface à l'insu de mon plein gré. Il est donc... Mais comme toute structure de l'économie sociale, elle peut faire de l'excellent, bien entendu, qui sera redistribué au sein de l'entreprise. Cette petite boutade. Je veux dire par là qu'il est bien évident que si on veut que le GEDA perdure et qu'il puisse rendre un maximum de services, il faut qu'il soit économiquement viable. Il est économiquement viable parce qu'il a des aides. On parlait tout à l'heure du conseil régional. Moi, encore une fois, je tiens à souligner l'action de Jean-Paul Bachy, son président, Patricia Andriot, sa vice-présidente chargée de l'économie sociale, qui sont des gens qui nous ont aidés. Mais il est également financé et il a une perspective à moyen terme d'autofinancement par la contribution des membres. La contribution des membres, elle est calculée de façon simple. Elle est calculée, comme on pourrait le faire dans d'autres organisations, sur la base du salaire brut, sur la base des charges afférentes, des frais de fonctionnement afférents et d'une petite marge pour le groupement d'employeurs. Donc on a un facteur multiplicateur qui est actuellement en moyenne de 0,86.
Ça veut dire, pour moi qui suis assez inculte de ces questions-là, que c'est abordable pour les
structures. Ça veut dire que ça coûte moins cher que d'avoir recours, par exemple, à l'intérim. Alors ça coûte un peu plus cher que si on était employeur direct, mais souvent on n'a pas l'occasion d'être employeur direct, souvent pas toujours les moyens, et deux, les employeurs associatifs ont toujours un rapport, puisqu'on est dans la métaphore volaillère, un rapport un peu d'une poule avec un couteau à cette fonction employeur. C'est vrai, on le sait, et Hugues certainement en parlera aussi, et nous sommes là aussi pour non seulement assurer des tâches qui sont celles de l'employeur, bordereaux, URSSAF, la feuille de paye, l'accompagnement de la formation, mais également pour jouer ce rôle d'accompagnement. Nous avons obtenu, par exemple, un truc intéressant en Champagne-Ardenne, une convention tripartite entre le conseil régional, l'organisme collecteur de notre branche, qui est Uniformation, et l'Inter-GEDA, pour doubler l'effort formation en direction des salariés des groupements d'employeurs. Et ça, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière, volonté politique que nous représentons, bien entendu, mais qui est relayée par le conseil régional et facilité par cet outil technique au service de l'économie sociale qu'est l'organisme Uniformation.
Merci Pierre Clouet pour là aussi ces éclaircissements sur le GEDA, ce groupement d'employeurs pour développer l'associatif. Et merci également à Jérémy Dravigny. Prochaine date du festival de la poule de champ.
A priori, 13 et 14 septembre 2013.
Donc tout ça est en train de se préparer ou ça va pas tarder?
Ben, on finalise voilà, les derniers bilans de l'édition 2012, mais on est déjà sur 2013 depuis quelques mois maintenant, puisqu'en fait, on n'avait pas passé 2012, on était déjà sur 2013, justement, avec ces inquiétudes de financement.
Merci pour votre témoignage précieux à tous les deux, Pierre et Jérémy. On est toujours à la mairie de Reims, dans ce beau cadre, encore une fois, avec Jean-Louis Cabrespine, président du Conseil national des CRES, avec Michel Severs, présidente de la CRES Champagne-Ardennes, avec donc nos deux porteurs de projet qu'on vient d'entendre. Yves Videur, on vous entendra dans quelques minutes. Frédéric Toussaint, vous êtes directeur de communication au niveau national pour le crédit coopératif. On a parlé là de viabilité économique, j'imagine que c'est des choses qui vous parlent, évidemment, représentant une banque coopérative. Plus largement, quel rôle, j'allais dire, quelle responsabilité a le crédit coopératif, la banque de l'économie sociale et solidaire, reconnue comme telle, dans par exemple l'émergence de projets comme le projet de Jérémy ou ce que vient nous dire Pierre Clouet?
Alors, on est effectivement la banque de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est important, c'est qu'on se définit comme la banque à la fois des acteurs du monde culturel, la banque des acteurs de la solidarité, aussi la banque des entrepreneurs qui veulent entreprendre autrement, qui ne font pas de la finalité de l'argent et du court terme leur motivation, mais au contraire du sens, du long terme, des valeurs de cet entreprendre autrement. L'exemple de Jérémy était intéressant parce que c'est vrai qu'on voit un jeune qui est dans une démarche totalement culturelle et associative, et qui a un discours sur sa démarche. Et je trouve ça très intéressant, puisque ça rejoint des tas de problématiques qu'on a pu aborder, que ces acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent conscience qu'ils font partie d'un univers, d'un monde qui a des valeurs d'entreprendre autrement, d'agir autrement, qui ont d'autres finalités. Ça, c'est très important. Alors, sur la viabilité économique, c'est forcément pour une banque quelque chose de très important, puisque le coût du risque, pour employer un terme très barbare, ce coût du risque, c'est-à-dire qu'on est obligé d'intégrer dans l'activité de la banque ce coût qu'un projet n'arrivera pas à son terme, que la banque donc, est en risque. Et donc, c'est nous, au Crédit Coopératif, bien sûr, on est obligé de l'intégrer. On est soumis à toutes les obligations prudentielles, internationales ou nationales. Et aujourd'hui, nous, notre démarche est d'analyser quand même différemment les projets qui nous sont présentés. On voit effectivement l'équilibre économique de ces entreprises, de ces associations, de ces ONG qui sont la base de notre clientèle. Et en fait, on s'aperçoit que notre coût du risque n'est pas supérieur du tout aux autres réseaux bancaires. On a bien sûr des spécialistes qui sont organisés par secteur d'activité, qui comprennent parfaitement le fond des choses et qui savent très bien serrer les problèmes. Et aujourd'hui, on se rend compte que notre coût du risque n'est pas du tout supérieur aux autres. On a, on a passé la crise de 2008 beaucoup mieux que les autres banques parce que nous finançons les gens qui sont utiles. Une de nos expressions, c'est de dire on est la banque utile qui sert aux gens utiles. On crée l'emploi, on finance l'emploi local. On n'est pas dans les paradis fiscaux, on n'est pas dans la spéculation internationale. Et en fait, cette économie réelle qui souffre aujourd'hui, donc qui est bien sûr en tension. L'exemple aussi de Jérémy le disait, effectivement, avec ces contractions de subventions, ces contractions de budget partout. Aujourd'hui, on a des clients qui sont dans une certaine souffrance, mais en même temps, qui sont non pas dans le rêve et dans l'utopie comme on le croit, mais dans la réalité, dans cette proximité, dans ces services, dans un besoin réel. Et cette économie-là vit et elle va donner des leçons, je pense, à beaucoup de personnes. Elle a traversé la crise de 2008 beaucoup mieux que les autres et je pense qu'elle va traverser cette crise qu'on vit maintenant, qui est la crise non plus financière mais économique hard. Elle va donner des leçons et on est emblématique de tout cela. Et le mot aussi que j'ai envie de rajouter, c'est qu'on est une banque de l'optimisme et des gens optimistes, parce que même quand on travaille dans le secteur sanitaire et social, du handicap, de la solidarité intergénérationnelle, c'est pas forcément facile, mais tous ces gens-là sont formidablement optimistes et quand on est en réunion d'encadrement de managers, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que tout le monde voit les difficultés du secteur. Et en fait, dans l'intégration du risque, je pense que la banque intègre cette notion de gens totalement impliqués, qui ne sont pas là en train de vouloir placer des pions et de l'argent à distance. Ils sont là les mains dans le cambouis, mais ils sont aussi là près du cœur. Et ça fait une différence, même en traduction financière.
Vous avez une place particulière dans les banques mutualistes coopératives, parce que autant on peut être dans une banque coopérative et ne pas le savoir, que les clients que vous avez, les structures avec lesquelles vous construisez des choses, ces défricheurs d'avenir, j'aime bien ce mot-là, ils viennent chez vous à dessein. Ils savent qui vous êtes déjà. C'est un statut, une place un peu particulière tout de même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Crédit Coopératif a une démarche justement un peu particulière parce qu'il crée des partenariats avec les grandes fédérations, les grands secteurs d'activité, et en même temps, donc il est sur le terrain aux côtés des acteurs. Et cette conscience, là aussi, on a pu échanger tout à l'heure, c'est cette conscience de faire partie d'un même univers est essentielle. Nous, on est non seulement une banque coopérative, mais on fait vivre ces valeurs au quotidien, on les traduit dans notre action, elles sont traduites même dans le bilan de la banque, et aujourd'hui, on se rend compte que ces valeurs, il faut les partager avec les collaborateurs, avec les clients, dans nos campagnes de communication, et aussi, le Crédit Coopératif est très impliqué auprès de tous les grandes structures, hein, donc le président de la banque et président de l'Association internationale des banques coopératives. On était au sommet de Québec sur les coopératives, qui était un mouvement formidable de prise de conscience internationale avec 3000 délégués, presque 100 pays représentés, un mouvement très fort. On vit non seulement dans l'action ces valeurs, mais on vise aussi à les faire partager. Un mot aussi, hein, donc via notre fondation, puisque le Crédit Coopératif a une fondation qui fait un travail formidable, hein, qui est dotée d'un budget important, qui est un effort, hein, pour la banque. Et cette fondation du Crédit Coopératif a dans ses principales missions le développement de cette économie sociale et solidaire au sens de la pédagogie, au sens de l'enseignement, de cette conscience et de cette culture, hein. Donc je rejoins tous les participants sur cette déficience aujourd'hui de la culture générale autour de l'économie sociale, directement liée à l'absence de présence de cette économie sociale dans les programmes. Et donc la Fondation agit aussi sur ce plan, c'est très important, avec des prix, des trophées qui sont dotés, aussi bien pour les journalistes que pour les enseignants, que pour les associations qui se battent. Donc c'est très important.
Quand on ouvre un compte, j'ai pas d'action, hein, au Crédit Coopératif, tiens à le dire. Hein. Donc j'avais quand on ouvre un compte au Crédit.
Vous auriez du mal, hein, il n'y a que des parts sociales.
Il y a des parts sociales. Voilà, ben voilà, tenez, faites bien de le dire. Quand on ouvre un compte, on peut justement, ces sous là, qu'on a sur notre compte, ils peuvent servir à des placements éthiques. Il y a aussi cette façon de faire autrement avec des placements qui ne font pas n'importe quoi, qui correspondent peut-être à des aspirations de plus en plus. Nombreuses d'ailleurs.
Ben, on a quelque chose qui est extrêmement important parce que dans toute cette démarche et qu'on vient de lancer, nous sommes le seul établissement bancaire en Europe à avoir lancé cela pour répondre justement aux souhaits de nos clients qui sont personnes morales ou particuliers. Ça s'appelle le compte Agir qui porte son nom, bien son nom. C'est-à-dire que c'est comme un compte courant, vous placez l'argent sur votre compte, mais en même temps, vous avez le droit de choisir l'univers de financement de votre argent, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire que votre argent va servir à financer l'économie sociale, va servir à financer la solidarité, va servir à financer l'environnement, et c'est unique, c'est une démarche unique et qu'on veut exemplaire, et aujourd'hui on a vraiment on voit vraiment le succès de cette proposition.
J'imagine que vous saluez une initiative comme le mois de l'économie sociale et solidaire qui permet de faire là aussi connaître au plus grand nombre les valeurs et finalement les perspectives des acteurs qui sont à l'œuvre justement au sein de cette autre économie.
C'est un mois très important et un rendez-vous extrêmement fort, et de l'avoir inscrit sur une durée d'un mois et non pas d'une journée est quelque chose de formidablement important pour manifester la diversité de l'économie sociale.
Oui, Jean-Louis Grabesuine, rapidement, je vais passer la parole à Guider ensuite. Oui,
juste rajouter un point, c'est que dans le mois de l'économie sociale est aussi inclus la semaine de la finance solidaire semaine de la solidarité internationale. Donc il faut savoir que du coup, tous les acteurs de l'économie sociale se regroupent pour pouvoir mener à bien des opérations pour faire connaître ce qu'on fait.
Merci de cette précision. Hugues Vidor, vice-président de l'UGRES, syndicat des employeurs de l'économie sociale. Dans vos axes principaux d'action, il y a le fait de faire vivre et défendre l'entreprendre autrement, défendu par les associations, les coopératives et les mutuelles. Comment ça se traduit sur le terrain, j'allais dire? Et merci d'avoir été patient avant de prendre la parole.
Pas de problème. On s'est écouté dans l'économie sociale et c'est bien ça aussi, il faut savoir respecter la parole de chacun. Et ces paroles étaient très, très intéressantes parce qu'elles illustrent la complexité dans laquelle se trouve l'économie sociale aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs en termes de communication, que ce soit en termes de financement, on a parlé des questions de financement, et qui prouve que si on n'est pas convaincu, avant de répondre à votre question, c'est que si on n'est pas convaincu de son engagement, à quelque niveau que ce soit, ça ne peut pas passer. Ça, dans l'économie sociale, c'est quand même un message fort, c'est-à-dire qu'en termes de qualité de l'emploi, dans un milieu qui est extrêmement complexe, quand on prend une entreprise classique, vous avez un système de gouvernance qui vous permet d'activer un levier et de mettre en place une politique. Dans l'économie sociale, ce n'est pas du tout la même chose. Pierre Clouet l'a exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans du participatif avec multi-parties prenantes. Donc il est tout à fait important de mettre les gens autour d'une table, de se parler. Le dialogue social, c'est ça aussi. Il y a le dialogue social institué, mais il y a le dialogue social qui se vit dans les entreprises. Vous parliez de entreprendre autrement. Entreprendre autrement, c'est justement autour de cette idée de développer de la qualité de l'emploi. C'est-à-dire que nous souhaitons tout simplement vivre les valeurs que nous édifions, que nous partageons au niveau national, que nous partageons dans nos statuts, que nous partageons dans un certain nombre de réseaux. Mais comment est-ce qu'on les vit ? Comment est-ce qu'on les traduit ? Et le sens de l'action, un des sens forts de l'action de l'UGRS, et je rejoins Madame Sévère sur sa définition de l'entreprise associative. Alors, ce n'est pas simplement l'entreprise associative, parce que c'est l'entreprise mutualiste, c'est l'entreprise coopérative, mais c'est les notions d'entreprise. Et donc, entreprise, il y a des devoirs, il y a des droits, mais on est dans le même milieu que les autres. Alors, on vit les choses un tout petit peu différemment, parce que justement, comme vous le dites, on veut entreprendre autrement. Donc, entreprendre autrement, c'est autour de la notion de qualité de l'emploi. Quelques exemples. On a négocié au niveau de l'UGRS des accords sur la formation professionnelle permettant la sécurisation de l'emploi, permettant de définir des parcours professionnels, de donner de la lisibilité à nos métiers. Ce que Pierre Clouet disait tout à l'heure est extrêmement important, c'est-à-dire que certaines fois, compte tenu des contextes économiques dans lesquels on se trouve, compte tenu de la concurrence dans laquelle on est, il est difficile de pouvoir, si on a un seul employeur sur un territoire, de lui donner un emploi à temps plein. Eh bien voilà, l'image, la traduction de l'expérimentation qui est menée à travers le GEDA est passionnante de ce point de vue-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer d'un temps partiel à un temps plein. Il y a d'autres exemples, notamment en lien avec les politiques publiques. J'ai entendu récemment la vice-présidente du conseil régional de PACA qui a fait la même démarche avec le secteur de l'aide à domicile pour justement permettre des financements abondants, un premier financement qui peut venir de la formation pour permettre justement la pérennisation de l'emploi. Donc ça, c'est un premier élément. Mais il y en a d'autres. On a travaillé notamment sur la question de la formation des dirigeants bénévoles. Pourquoi ? Parce que dans les petites structures associatives, vous pouvez avoir des élus qui se retrouvent en situation de gestion, par exemple, comme monsieur l'a indiqué tout à l'heure, sur un festival. Eh bien, à un moment donné, on peut se retrouver en situation d'employeur. Et comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve comme ça, tout d'un coup, en situation d'employeur ? Donc, nous venons de négocier, nous avons négocié il y a quelques années, un accord sur la formation des dirigeants bénévoles, négocier avec les organisations syndicales de salariés du secteur, qui sont reconnus représentatifs au niveau national, et qui est aussi pour nous une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que les organisations syndicales nous reconnaissent comme des acteurs dans la négociation. Donc on a une fonction au niveau de l'UGRS de négociation. On parle de qualité de l'emploi, l'axe dialogue social fait partie de cette qualité de l'emploi, que ça soit au niveau national ou que ça soit dans les entreprises. Un troisième axe, c'est tout ce qui concerne la prévention des risques professionnels. Nous sommes engagés dans des dispositifs et dans des actions visant à prévenir les risques professionnels. Par exemple, dans le secteur de l'aide à domicile, vous avez des intervenantes qui vont avec leur voiture et qui interviennent à domicile. Donc il y a tout un travail de prévention à mettre en œuvre, alors qu'on ne fait pas tout seul, bien entendu, hein, puisqu'il y a les NERES, il y a l'ARACT, il y a un certain nombre d'instituts. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que pour permettre aux employeurs sur les territoires de mener des actions qui puissent être en harmonie, en osmose avec les valeurs qu'ils défendent, c'est-à-dire relier pratique et valeurs, il faut que derrière, il y ait des dispositifs nationaux qui abondent des outils. On prend la formation, Pierre Clouet en parlait tout à l'heure sur la formation. Si nous n'avions pas, au niveau de l'UGRS, mis en place et développé un outil qui s'appelle un OPCA, qui est Uniformation, qui a un niveau de collecte aujourd'hui de 260 millions d'euros, donc qui permet de faire de la formation sur des fonds mutualisés pour justement organiser la formation des salariés, ça n'aurait pas été possible. Sur la santé, de la même manière, l'ensemble des différentes branches adhérentes à l'UGRS ont négocié des accords sur la complémentaire santé et la prévoyance. Ça, c'est de la mutualisation. Et ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas ce travail national et cette volonté politique partagée au-delà de l'UGRS
par l'ensemble des acteurs de l'économie sociale.
Merci pour là aussi ces précisions sur votre organisation, donc l'UGRES, ce syndicat des employeurs de l'économie sociale. Puis on sent bien que dans notre discussion, c'est vraiment le dialogue, hein, le décloisonnement qui est à l'œuvre pour faire valoir cette autre économie. Puis allez-y, monsieur Vidor.
Un mot là-dessus, vous parliez de décloisonnement. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un certain nombre de fenêtres qui s'ouvrent dans le débat qu'on a au niveau national sur la problématique de la représentativité des employeurs de l'économie sociale. À savoir que jusqu'alors, nous butions sur une forme de refus de la part des pouvoirs publics pour reconnaître les employeurs de l'économie sociale. Avec ce nouveau gouvernement, nous avons un certain nombre de gages et de promesses. Donc, gageons que ces promesses soient les prémices de résultats plus conséquents. Je vous en donne deux, trois. Hein. C'est l'annonce que l'UGRES aura un poste au Conseil d'orientation de l'emploi, c'est une bonne nouvelle. La seconde, c'est que...
C'est Michel Sapin qui a fait l'annonce à la Convention nationale la semaine dernière,
je crois. Tout à fait, absolument. Ah. Qui est venu d'ailleurs, et c'est un signal positif, puisque Michel Sapin est venu lui-même à notre Convention nationale de l'UGRES.
Et Benoît Hamon
a clôturé. Et nous avions été invités au préalable à la grande conférence sociale. Donc on a des signaux positifs. Et Michel Sapin a annoncé qu'il serait très attentif au fait que les partenaires sociaux arrivent à un accord sur la question de la représentativité intégrant les employeurs de l'économie sociale. Quand on sait qu'il y a 2 millions de salariés dans l'économie sociale et qui ne sont pas représentés au niveau national, que nous sommes absents de l'ensemble des débats, ça pose question. Donc, cette volonté politique, pour nous, c'est un signal positif, mais bien entendu, on reste mobilisé, vous l'avez compris.
Et tout le monde est attentif également au projet de loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, avril 2013, très attendu avec, en toile de fond, finalement, la reconnaissance de l'économie sociale. Deux mots, vraiment, Jean-Luc Bosmin, là-dessus ?
Oui, deux mots, puisque je fais partie de... Je préside une des deux commissions qui travaillent sur sa rédaction, donc je suis en plein dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une vraie loi de reconnaissance, mais qui va au-delà, parce qu'elle va aussi donner la possibilité d'avoir des outils pour pouvoir travailler. Juste un mot que je voulais rajouter là-dessus, c'est la place des jeunes. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais...
Alors on a parlé avec Jérémy.
Mais c'est justement la présence de Jérémy qui me fait en parler. C'est qu'aujourd'hui, dans l'économie sociale, il y a quelque chose qu'il faut qu'on améliore, c'est la parité et la place des jeunes. Et on est en train de travailler dessus.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé, de vous être écoutés. Je crois que l'écoute, elle est trop rare pour ne pas être saluée. Merci également à Stéphane Lepin pour la réalisation technique de cette émission. Merci à RCF Reims, à RJR, Radio Jeune Reims pour les moyens techniques mis à disposition. Bon vent à l'économie sociale et solidaire et puis bon mois de l'économie sociale et solidaire. La semaine de la finance sociale et la finance solidaire, vous l'avez dit, monsieur Jean-Luc Cabrespin, fait partie de ce rendez-vous. À bientôt. Et puis bon travail à tous. Au revoir.
J'achète responsable. Je me déplace écolo. J'épargne solidaire. Je consomme bio, nous mutualisons nos talents, je travaille autrement, nous agissons ensemble. Ces mots doivent devenir des actes. Agissez dans votre région durant le mois de l'économie sociale et solidaire. À tous les acteurs de changement, rendez-vous près de chez vous en novembre. Faites votre programme sur le www.le-moi-ess.org.